Save big this holiday season. All in the Kroger app.
Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
12e section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue. Première partie, Les deux poètes, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Lucien et Louise avaient dans du Châtelet un espion intime qui guettait avec la persistance d'une haine mêlée de passion et d'avarice l'occasion d'amener un éclat. Sixte voulait forcer Madame de Bargeton à si bien se prononcer pour Lucien qu'elle fut ce qu'on nomme perdue. Il s'était posé comme un humble confident de Madame de Bargeton, mais s'il admirait Lucien rue du Minage, il le démolissait partout ailleurs. Il avait insensiblement conquis les petites entrées chez Naïs, qui ne se défiait plus de son vieil adorateur. Mais il avait trop présumé des deux amants dont l'amour restait platonique au grand désespoir de Louise et de Lucien. Il y a en effet des passions qui s'embarquent mal ou bien, comme on voudra. Deux personnes se jettent dans la tactique du sentiment, parlent au lieu d'agir et se battent en plein champ au lieu de faire un siège. Elles se blasent ainsi souvent d'elles-mêmes en fatiguant leurs désirs dans le vide. Deux amants se donnent alors le temps de réfléchir, de se juger. Souvent des passions qui étaient entrées en campagne, enseignes déployées, pimpantes, avec une ardeur à tout renverser, finissent alors par rentrer chez elles, sans victoire, honteuses, désarmées, sautes de leur vain bruit. Ces fatalités sont parfois explicables par les timidités de la jeunesse et par les temporisations auxquelles se plaisent les femmes qui débutent, car ces sortes de tromperies mutuelles n'arrivent ni aux fats, qui connaissent la pratique, ni aux coquettes, habituées au manège de la passion. La vie de province est d'ailleurs singulièrement contraire au contentement de l'amour et favorise les débats intellectuels de la passion, comme aussi les obstacles qu'elle oppose au doux commerce qui lie tant les amants précipite les âmes ardentes en des parties extrêmes. Cette vie est basée sur un espionnage si méticuleux, sur une si grande transparence des intérieurs, elle admet si peu l'intimité qui console sans offenser la vertu, les relations les plus pures y sont si déraisonnablement incriminées, que beaucoup de femmes sont flétries malgré leur innocence. Certaines d'entre elles s'en veulent alors de ne pas goûter toutes les félicités d'une faute dont tous les malheurs les accablent. La société qui blâme ou critique sans aucun examen sérieux les faits patents par lesquels se terminent de longues luttes secrètes est ainsi primitivement complice de ces éclats. Mais la plupart des gens qui déblatèrent contre les prétendus scandales offerts par quelques femmes calomniées sans raison n'ont jamais pensé aux causes qui déterminent chez elles une résolution publique. Madame de Bargeton allait se trouver dans cette bizarre situation où se sont trouvées beaucoup de femmes qui ne se sont perdues qu'après avoir été injustement accusées. Au début de la passion, les obstacles effraient les gens inexpérimentés, et ceux que rencontraient les deux amants ressemblait fort aux liens par lesquels les Lilliputiens avaient garrotté Gulliver. C'étaient des riens multipliés qui rendaient tout mouvement impossible et annulaient les plus violents désirs. Ainsi, Madame de Bargeton devait rester toujours visible. Si elle avait fait fermer sa porte aux heures où venait Lucien, tout eût été dit. Autant aurait valu s'enfuir avec lui. Elle le recevait, à la vérité, dans ce boudoir auquel il s'était si bien accoutumé, qu'il s'en croyait le maître. Mais les portes demeuraient, consciencieusement, ouvertes. Tout se passait le plus vertueusement du monde. Monsieur de Bargeton se promenait chez lui comme un hanneton, sans croire que sa femme voulût être seule avec Lucien. S'il n'y avait eu d'autre obstacle que lui, Naïs aurait très bien pu le renvoyer ou l'occuper. Mais elle était accablée de visites, et il y avait d'autant plus de visiteurs que la curiosité était plus éveillée. Les gens de province sont naturellement taquins, ils aiment à contrarier les passions naissantes. Les domestiques allaient et venaient dans la maison sans être appelés ni sans prévenir de leur arrivée. Par suite de vieilles habitudes prises et qu'une femme qui n'avait rien à cacher leur avait laissé prendre. Changer les mœurs intérieures de sa maison, n'était-ce pas avouer l'amour dont doutait encore tout Angoulême? Madame de Bargeton ne pouvait pas mettre le pied hors de chez elle sans que la ville sût où elle allait. Se promener seule avec Lucien hors de la ville était une démarche décisive. Il aurait été moins dangereux de s'enfermer avec lui chez elle. Si Lucien était resté après minuit chez Madame de Bargeton, sans y être en compagnie, on en aurait glosé le lendemain. Ainsi, au dedans comme au dehors, Madame de Bargeton vivait toujours en public. Ces détails peignent toute la province. Les fautes y sont ou avouées ou impossibles. Louise, comme toutes les femmes entraînées par une passion sans en avoir l'expérience, reconnaissait une à une les difficultés de sa position. Elle s'en effrayait. Sa frayeur réagissait alors sur ces amoureuses discussions qui prennent les plus belles heures où deux amants se trouvent seuls. Madame de Bargeton n'avait pas de terre où elle pût emmener son cher poète, comme font quelques femmes qui, sous un prétexte habilement forgé, vont s'enterrer à la campagne. Fatiguée de vivre en public, poussée à bout par cette tyrannie dont le joug était plus dur que ses plaisirs n'étaient doux, elle pensait à l'Escarbas et méditait d'y aller voir son vieux père, tant elle s'irritait de ces misérables obstacles. Châtelet ne croyait pas à tant d'innocence. Il guettait les heures auxquelles Lucien venait chez Madame de Bargeton et s'y rendait quelques instants après, en se faisant toujours accompagner de Monsieur de Chandour, l'homme le plus indiscret de la coterie et auquel il cédait le pas pour entrer, espérant toujours une surprise en cherchant si opiniâtrement un hasard. Son rôle et la réussite de son plan étaient d'autant plus difficiles qu'il devait rester neutre afin de diriger tous les acteurs du drame qu'il voulait faire jouer. Aussi, pour endormir Lucien qu'il caressait et Madame de Bargeton qui ne manquait pas de perspicacité, s'était-il attaché par contenance à la jalouse Amélie. Pour mieux faire espionner Louise et Lucien, il avait réussi depuis quelques jours à établir entre Monsieur de Chandour et lui une controverse au sujet des deux amoureux. Du Châtelet prétendait que Madame de Bargeton se moquait de Lucien, qu'elle était trop fière, trop bien née pour descendre jusqu'au fils d'un pharmacien. Ce rôle d'incrédule allait au plan qu'il s'était tracé, car il désirait passer pour le défenseur de Madame de Bargeton. Stanislas soutenait que Lucien n'était pas un amant malheureux. Amélie aiguillonnait la discussion en souhaitant savoir la vérité. Chacun donnait ses raisons. Comme il arrive dans les petites villes, souvent quelques intimes de la maison Chandour arrivaient au milieu d'une conversation où du Châtelet et Stanislas justifiaient à l'envi leur opinion par d'excellentes observations. Il était bien difficile que chaque adversaire ne cherchât pas des partisans en demandant à son voisin « Et vous, quel est votre avis ?» Cette controverse tenait Madame de Bargeton et Lucien constamment en vue. Enfin, un jour, du Châtelet fit observer que toutes les fois que Monsieur de Chandour et lui se présentaient chez Madame de Bargeton et que Lucien s'y trouvait, aucun indice ne trahissait de relations suspectes. La porte du boudoir était ouverte, les gens allaient et venaient. Rien de mystérieux n'annonçait les jolis crimes de l'amour, etc. Stanislas, qui ne manquait pas d'une certaine dose de bêtise, se promit d'arriver le lendemain sur la pointe du pied, ce à quoi la perfide Amélie l'engagea fort. Ce lendemain fut pour Lucien une de ces journées où les jeunes gens s'arrachent quelques cheveux en se jurant à eux-mêmes de ne pas continuer le sot métier de soupirant. Il s'était accoutumé à sa position. Le poète qui avait si timidement pris une chaise dans le boudoir sacré de la reine d'Angoulême s'était métamorphosé en amoureux exigeant. 6 mois avaient suffi pour qu'il se crût l'égal de Louise, et il voulait alors en être le maître. Il partit de chez lui se promettant d'être très déraisonnable, de mettre sa vie en jeu, d'employer toutes les ressources d'une éloquence enflammée, de dire qu'il avait la tête perdue, qu'il était incapable d'avoir une pensée ni d'écrire une ligne. Il existe chez certaines femmes une horreur des partis pris qui fait honneur à leur délicatesse. Elles aiment à céder à l'entraînement et non à des conventions. Généralement, personne ne veut d'un plaisir imposé. Madame de Bargeton remarqua sur le front de Lucien, dans ses yeux, dans sa physionomie et dans ses manières, cet air agité qui trahit une résolution arrêtée. Elle se proposa de la déjouer, un peu par esprit de contradiction, mais aussi par une noble entente de l'amour. En femme exagérée, elle s'exagérait la valeur de sa personne. À ses yeux, Madame de Bargeton était une souveraine, une Béatrix, une Laure. Elle s'asseyait, comme au Moyen-Âge, sous le dé du tournoi littéraire, et Lucien devait la mériter après plusieurs victoires. Il avait à effacer l'enfant sublime, Lamartine, Walter Scott, Byron. La noble créature considérait son amour comme un principe généreux. Les désirs qu'elle inspirait à Lucien devaient être une cause de gloire pour lui. Ce don-quichotisme féminin est un sentiment qui donne à l'amour une consécration respectable. Elle l'utilise, elle l'agrandit, elle l'honore. Obstinée à jouer le rôle de Dulcinée dans la vie de Lucien pendant 7 à 8 ans, Madame de Bargeton voulait, comme beaucoup de femmes de province, faire acheter sa personne par une espèce de servage, par un temps de constance qui lui permit de juger son ami. Quand Lucien eut engagé la lutte par une de ces fortes bouderies dont se rient les femmes encore libres d'elles-mêmes et qui n'attristent que les femmes aimées, Louise prit un air digne et commença l'un de ces longs discours bardés de mots pompeux. « Est-ce là ce que vous m'aviez promis, Lucien ? » dit-elle en finissant. « Ne mettez pas dans un présent si doux des remords qui plus tard empoisonneraient ma vie. Ne gâtez pas l'avenir. Et, je le dis avec orgueil, ne gâtez pas le présent. N'avez-vous pas tout mon cœur ? Que vous faut-il donc ? Votre amour se laisserait-il influencer par les sens, tandis que le plus beau privilège d'une femme aimée est de leur imposer silence ? Pour qui me prenez-vous donc ? Ne suis-je donc plus votre Béatrix ? Si je ne suis pas pour vous quelque chose de plus qu'une femme ? Je suis moins qu'une femme. Vous ne diriez pas autre chose à un homme que vous n'aimeriez pas, s'écria Lucien, furieux. Si vous ne sentez pas tout ce qu'il y a de véritable amour dans mes idées, vous ne serez jamais digne de moi. Vous mettez mon amour en doute pour vous dispenser d'y répondre, dit Lucien en se jetant à ses pieds et pleurant. Le pauvre garçon pleura sérieusement en se voyant pour si longtemps à la porte du paradis. Ce fut des larmes de poète qui se croyait humilié dans sa puissance, des larmes d'enfant au désespoir de se voir refuser le jouet qu'il demande. « Vous ne m'avez jamais aimé, » s'écria-t-il. « Vous ne croyez pas ce que vous dites, » répondit-elle, flattée de cette violence. « Prouvez-moi donc que vous êtes à moi, » dit Lucien, échevelé. En ce moment, Stanislas arriva sans être entendu, vit Lucien à demi renversé, les larmes aux yeux et la tête appuyée sur les genoux de Louise. Satisfait de ce tableau suffisamment suspect, Stanislas se replia brusquement sur du Châtelet, qui se tenait à la porte du salon. Madame de Bargeton s'élança vivement, mais elle n'atteignit pas les deux espions qui s'étaient précipitamment retirés comme des gens importuns. « Qui donc est venu ? » demanda-t-elle à ces gens. « Messieurs de Chandour et du Châtelet, répondit Gentil, son vieux valet de chambre. » Elle rentra dans son boudoir, pâle et tremblant. « S'ils vous ont vu ainsi, je suis perdu, » dit-elle à Lucien. « Tant mieux, » s'écria le poète. Elle sourit à ce cri d'égoïsme plein d'amour. En province, une semblable aventure s'aggrave par la manière dont elle se raconte. En un moment, chacun sut que Lucien avait été surpris aux genoux de Naïs. Monsieur de Chandour, heureux de l'importance que lui donnait cette affaire, alla d'abord raconter le grand événement au cercle, puis de maison en maison. Du Châtelet s'empressa de dire partout qu'il n'avait rien vu, mais en se mettant ainsi en dehors du fait, il excitait Stanislas à parler. Il lui faisait enchérir sur les détails, et Stanislas, se trouvant spirituel, en ajoutait de nouveau à chaque récit. Le soir, la société afflua chez Amélie, car le soir les versions les plus exagérées circulaient dans l'Angoulême noble, où chaque narrateur avait imité Stanislas. Femmes et hommes étaient impatients de connaître la vérité. Les femmes qui se voilaient la face en criant le plus au scandale, à la perversité, étaient précisément Amélie, Zéphirine, Fifine, Lolotte, qui toutes étaient plus ou moins grevées de bonheurs illicites. Le cruel thème se variait sur tous les tons. « Eh bien, disait l'une, cette pauvre Naïs, vous savez ? Moi, je ne le crois pas. Elle a devant elle toute une vie irréprochable. Elle est beaucoup trop fière pour être autre chose que la protectrice de Monsieur Chardon. Mais si cela est, je la plains de tout mon cœur. Elle est d'autant plus à plaindre qu'elle se donne un ridicule affreux, car elle pourrait être la mère de Monsieur Lulu, comme l'appelait Jacques. Ce poétrio a tout au plus 22 ans, et Naïs, entre nous soit dit, a bien 40 ans. « Moi, disait Châtelet, je trouve que la situation même dans laquelle était Monsieur de Rubempré prouve l'innocence de Naïs. On ne se met pas à genoux pour redemander ce qu'on a déjà eu. »« C'est selon, dit Francis d'un air égrillard qui lui valut de Zéphirine une œillade improbative. « Mais dites-nous donc bien ce qui en est, demandait-on à Stanislas en se formant en comité secret dans un coin du salon. » Stanislas avait fini par composer un petit conte plein de gravelure et l'accompagnait de gestes et de poses qui incriminaient prodigieusement la chose. « C'est incroyable » répétait-on. « À midi, disait l'une, Naïs aurait été la dernière que j'eusse soupçonnée. Que va-t-elle faire ? » Puis des commentaires, des suppositions infinies. Du Châtelet défendait Madame de Bargeton, mais il la défendait si maladroitement qu'il attisait le feu du commérage au lieu de l'éteindre. Lily, désolée de la chute du plus bel ange de l'Olympe angoumoisin, alla tout en pleurs colporter la nouvelle à l'évêché. Quand la ville entière fut bien certainement en rumeur, l'heureux du Châtelet alla chez Madame de Bargeton, où il n'y avait, hélas, qu'une seule table de whist. Il demanda diplomatiquement à Naïs d'aller causer avec elle dans son boudoir. Tous deux s'assirent sur le petit canapé. « Vous savez sans doute, dit du Châtelet à voix basse, ce dont tout Angoulême s'occupe. »« Non, dit-elle. »« Eh bien, reprit-il, je suis trop votre ami pour vous le laisser ignorer. Je dois vous mettre à même de faire cesser des calomnies sans doute inventées par Amélie, qui a l'outrecuidance de se croire votre rivale. Je venais ce matin vous voir avec ce singe de Stanislas qui me précédait de quelques pas. Lorsqu'en arrivant là, dit-il en montrant la porte du boudoir, il prétend vous avoir vu avec Monsieur de Rubempré dans une situation qui ne lui permettait pas d'entrer. Il est revenu sur moi tout effaré en m'entraînant, sans me laisser le temps de me reconnaître, et nous étions à Beaulieu quand il me dit la raison de sa retraite. Si je l'avais connu, je n'aurais pas bougé de chez vous, afin d'éclaircir cette affaire à votre avantage. Mais revenir chez vous après en être sorti ne prouvait plus rien. Maintenant, que Stanislas ait vu de travers ou qu'il ait raison, il doit avoir tort. Chère Naïs, ne laissez pas jouer votre vie, votre honneur, votre avenir par un sot. Imposez-lui silence à l'instant. Vous connaissez ma situation ici. Quoique j'y aie besoin de tout le monde, je vous suis entièrement dévoué. Disposez d'une vie qui vous appartient. Quoique vous ayez repoussé mes vœux, mon cœur sera toujours à vous, et en toute occasion je vous prouverai combien je vous aime. Oui, je veillerai sur vous comme un fidèle serviteur, sans espoir de récompense, uniquement pour le plaisir que je trouve à vous servir, même à votre insu. Ce matin, j'ai partout dit que j'étais à la porte du salon et que je n'avais rien vu. Si l'on vous demande qui vous a instruite des propos tenus sur vous, servez-vous de moi. Je serais bien glorieux d'être votre défenseur avoué. Mais, entre nous, M. de Bargeton est le seul qui puisse demander raison à Stanislas. Quand ce petit Rubempré aurait fait quelque folie, l'honneur d'une femme ne saurait être à la merci du premier étourdi qui se met à ses pieds. Voilà ce que j'ai dit. Naïs remercia du Châtelet par une inclination de tête et demeura pensive. Elle était fatiguée, jusqu'au dégoût, de la vie de province. Au premier mot de Duchâtelet, elle avait jeté les yeux sur Paris. Le silence de Madame de Bargeton mettait son savant adorateur dans une situation gênante. « Disposez de moi, dit-il, je vous le répète. »« Merci, répondit-elle. Que comptez-vous faire ? Je verrai. » Long silence. « Aimez-vous donc tant ce petit Rubempré ? » Elle laissa échapper un superbe sourire et se croisa les bras en regardant les rideaux de son boudoir. Du Châtelet sortit sans avoir pu déchiffrer ce cœur de femme altière. Quand Lucien et les quatre fidèles vieillards qui étaient venus faire leur partie sans s'émouvoir de ces cancans problématiques furent partis, Madame de Bargeton arrêta son mari qui se disposait à s'aller coucher en ouvrant la bouche pour souhaiter une bonne nuit à sa femme. « Venez par ici, mon cher, j'ai à vous parler, » dit-elle avec une sorte de solennité. Monsieur de Bargeton suivit sa femme dans le boudoir. « Monsieur, » lui dit-elle, « j'ai peut-être eu tort de mettre dans mes soins protecteurs envers monsieur de Rubempré une chaleur aussi mal comprise par les sottes gens de cette ville que par lui-même. Ce matin, Lucien s'est jeté à mes pieds, là, en me faisant une déclaration d'amour. Stanislas est entré dans le moment où je relevais cet enfant. Au mépris des devoirs que la courtoisie impose à un gentilhomme envers une femme en toute espèce de circonstance, il a prétendu m'avoir surprise dans une situation équivoque avec ce garçon que je traitais alors comme il le mérite. Si ce jeune écervelé savait les calomnies auxquelles sa folie donne lieu, je le connais, il irait insulter Stanislas et le forcerait à se battre. Cette action serait comme un aveu public de son amour. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre femme est pure, mais vous penserez qu'il y a quelque chose de déshonorant pour vous et pour moi à ce que ce soit monsieur de Rubempré qui la défende. Allez à l'instant chez Stanislas et demandez-lui sérieusement raison des insultants propos qu'il a tenus sur moi. Songez que vous ne devez pas souffrir que l'affaire s'arrange, à moins qu'il ne se rétracte en présence de témoins nombreux et importants. Vous conquerrez ainsi l'estime de tous les honnêtes gens. Vous vous conduirez en homme d'esprit, en galant homme, et vous aurez des droits à mon estime. Je vais faire partir gentil à cheval pour l'Escarbas. Mon père doit être votre témoin. Malgré son âge, je le sais homme à fouler aux pieds cette poupée qui noircit la réputation d'une nègrepelisse. Vous avez le choix des armes. Battez-vous au pistolet. Vous tirez à merveille. J'y vais. Reprit monsieur de Bargeton, qui prit sa canne et son chapeau. « Bien, mon ami, dit sa femme émue, voilà comme j'aime les hommes. Vous êtes un gentilhomme. » Elle lui présenta son front à baiser, que le vieillard baisa tout heureux et fier. Cette femme, qui portait une espèce de sentiment maternel à ce grand enfant, ne put réprimer une larme en entendant retentir la porte cochère quand elle se referma sur lui. « Comme il m'aime, se dit-elle, le pauvre homme tient à la vie, et cependant il la perdrait sans regret pour moi. » Monsieur de Bargeton ne s'inquiétait pas d'avoir à s'aligner le lendemain devant un homme à regarder froidement la bouche d'un pistolet dirigé sur lui. Non, il n'était embarrassé que d'une seule chose, et il en frémissait tout en allant chez monsieur de Chandour. « Que vais-je dire ? » pensait-il. « Naïs aurait bien dû me faire un thème. » Et il se creusait la cervelle afin de formuler quelques phrases qui ne fussent point ridicules. Mais les gens qui vivent, comme vivait monsieur de Bargeton, dans un silence imposé par l'étroitesse de leur esprit et leur peu de portée, ont, dans les grandes circonstances de la vie, une solennité toute faite. Parlant peu, il leur échappe naturellement peu de sottises. Puis, réfléchissant beaucoup à ce qu'ils doivent dire, leur extrême défiance d'eux-mêmes les porte à si bien étudier leurs discours qu'ils s'expriment à merveille par un phénomène pareil à celui qui délia la langue à l'ânesse de Balaam. Aussi M. de Bargeton se comporta-t-il comme un homme supérieur. Il justifia l'opinion de ceux qui le regardaient comme un philosophe de l'école de Pythagore. Il entra chez Stanislas à 11 heures du soir et y trouva nombreuses compagnies. Il alla saluer silencieusement Amélie et offrit à chacun son niais sourire qui, dans les circonstances présentes, parut profondément ironique. Il se fit alors un grand silence, comme dans la nature à l'approche d'un orage. Châtelet, qui était revenu, regarda tour à tour d'une façon très significative monsieur de Bargeton et Stanislas, que le mari offensé aborda poliment. Du Châtelet comprit le sens d'une visite faite à une heure où ce vieillard était toujours couché. Naïs agitait évidemment ce bras débile, et, comme sa position auprès d'Amélie lui donnait le droit de se mêler des affaires du ménage, il se leva, prit monsieur de Bargeton à part et lui dit « Vous voulez parler à Stanislas ?»« Oui, » dit le bonhomme, heureux d'avoir un entremetteur qui peut-être prendrait la parole pour lui. « Eh bien, allez dans la chambre à coucher d'Amélie, » lui répondit le directeur des contributions, heureux de ce duel qui pouvait rendre madame de Bargeton veuve en lui interdisant d'épouser Lucien, la cause du duel. « Stanislas, » dit du Châtelet à monsieur de Chandour, « Bargeton vient sans doute vous demander raison des propos que vous tenez sur Naïs. Venez chez votre femme et conduisez-vous tous deux en gentilshommes. Ne faites point de bruit. » Affectez beaucoup de politesse, ayez enfin toute la froideur d'une dignité britannique. » En un moment, Stanislas et du Châtelet vinrent trouver Bargeton. « Monsieur, dit le mari offensé, vous prétendez avoir trouvé madame de Bargeton dans une situation équivoque avec monsieur de Rubempré. » « Avec monsieur Chardon, reprit ironiquement Stanislas, qui ne croyait pas Bargeton un homme fort. « Soit, reprit le mari. Si vous ne démentez pas ce propos en présence de la société qui est chez vous en ce moment, je vous prie de prendre un témoin. Mon beau-père, monsieur de Nègrepelisse, viendra vous chercher à 4 heures du matin. Faisons chacun nos dispositions, car l'affaire ne peut s'arranger que de la manière que je viens d'indiquer. Je choisis le pistolet. Je suis l'offensé. » Durant le chemin, monsieur de Bargeton avait ruminé ce discours le plus long qu'il eût fait en sa vie. Il le dit sans passion et de l'air le plus simple du monde. Stanislas pâlit et se dit en lui-même « Qu'ai-je vu, après tout ?» Mais entre la honte de démentir ses propos devant toute la ville, en présence de ce muet qui paraissait ne pas vouloir entendre raillerie, et la peur, la hideuse peur qui lui serrait le cou de ses mains brûlantes, il choisit le péril le plus éloigné. « C'est bien. À demain. » dit-il à monsieur de Bargeton en pensant que l'affaire pourrait s'arranger. Les trois hommes rentrèrent et chacun étudia leur physionomie. Du Châtelet souriait, monsieur de Bargeton était absolument comme s'il se trouvait chez lui, mais Stanislas se montra blême. À cet aspect, quelques femmes devinèrent l'objet de la conférence. Ces mots, « ils se battent », circulèrent d'oreille en oreille. La moitié de l'assemblée pensa que Stanislas avait tort. Sa pâleur et sa contenance accusaient un mensonge. L'autre moitié admira la tenue de monsieur de Bargeton. Du Châtelet fit le grave et le mystérieux. Après être resté quelques instants à examiner les visages, monsieur de Bargeton se retira. Avez-vous des pistolets ? Dit Châtelet à l'oreille de Stanislas, qui frissonna de la tête aux pieds. Amélie comprit tout et se trouva mal. Les femmes s'empressèrent de la porter dans sa chambre à coucher. Il y eut une rumeur affreuse, tout le monde parlait à la fois. Les hommes restèrent dans le salon et déclarèrent d'une voix unanime que Monsieur de Bargeton était dans son droit. « Auriez-vous cru le bonhomme capable de se conduire ainsi ? » dit Monsieur de Saint-Eau. « Mais, dit l'impitoyable Jacques, dans sa jeunesse il était un des plus forts sous les armes. Mon père m'a souvent parlé des exploits de Bargeton. »« Bah, vous les mettrez à 20 pas, et ils se manqueront si vous prenez des pistolets de cavalerie, » dit Francis à Châtelet. Quand tout le monde fut parti, Châtelet rassura Stanislas et sa femme en leur expliquant que tout irait bien, et que dans un duel entre un homme de 60 ans et un homme de 36, celui-ci avait tout l'avantage. Le lendemain matin, au moment où Lucien déjeunait avec David, qui était revenu de Marsac sans son père, Madame Chardon entra tout effarée. « Eh bien, Lucien, sais-tu la nouvelle dont on parle jusque dans le marché ? Monsieur de Bargeton a presque tué Monsieur de Chandour, ce matin à 5 heures, dans le pré de Monsieur Tulois, un nom qui donne lieu à des calembours. Il paraît que Monsieur de Chandour a dit hier qu'il t'avait surpris avec Madame de Bargeton. « C'est faux. Madame de Bargeton est innocente, » s'écria Lucien. Un homme de la campagne à qui j'ai entendu raconter les détails avait tout vu de dessus sa charrette. Monsieur de Nègrepelisse était venu dès 3 heures du matin pour assister Monsieur de Bargeton. Il a dit à Monsieur de Chandour que s'il arrivait malheur à son gendre, il se chargeait de le venger. Un officier du régiment de cavalerie a prêté ses pistolets. Ils ont été essayés à plusieurs reprises par Monsieur de Nègrepelisse. Monsieur du Châtelet voulait s'opposer à ce qu'on exerçât les pistolets. Mais l'officier que l'on avait pris pour arbitre a dit qu'à moins de se conduire comme des enfants, on devait se servir d'armes en état. Les témoins ont placé les deux adversaires à 25 pas l'un de l'autre. Monsieur de Bargeton, qui était là comme s'il se promenait, a tiré le premier et logé une balle dans le cou de Monsieur de Chandour, qui est tombé sans pouvoir riposter. Le chirurgien de l'hôpital a déclaré tout à l'heure que Monsieur de Chandour aura le cou de travers pour le reste de ses jours. Je suis venu te dire l'issue de ce duel pour que tu n'ailles pas chez Madame de Bargeton ou que tu ne te montres pas dans Angoulême, car quelques amis de Monsieur de Chandour pourraient te provoquer. » En ce moment, Gentil, le valet de chambre de Monsieur de Bargeton, entra, conduit par l'apprenti de l'imprimerie, et remit à Lucien une lettre de Louise. « Vous avez sans doute appris, mon ami, l'issue du duel entre Chandour et mon mari. Nous ne recevrons personne aujourd'hui. » « Soyez prudent, ne vous montrez pas, je vous le demande au nom de l'affection que vous avez pour moi. Ne trouvez-vous pas que le meilleur emploi de cette triste journée est de venir écouter votre Béatrix, dont la vie est toute changée par cet événement et qui a 1000 choses à vous dire ?»« Heureusement, dit David, mon mariage est arrêté pour après-demain. Tu auras une occasion d'aller moins souvent chez Madame de Bargeton. »« Cher David, répondit Lucien, elle me demande de venir la voir aujourd'hui. Je crois qu'il faut lui obéir. Elle saura mieux que nous comment je dois me conduire dans les circonstances actuelles. « Tout est donc prêt ici ?» demanda Madame Chardon. « Venez voir, » s'écria David, heureux de montrer la transformation qu'avait subie l'appartement du premier étage, où tout était frais et neuf. Là respirait ce doux esprit qui règne dans les jeunes ménages, où les fleurs d'oranger, le voile de la mariée, couronnent encore la vie intérieure, où le printemps de l'amour se reflète dans les choses, où tout est blanc, propre et fleuri. Ève sera comme une princesse, dit la mère. Mais vous avez dépensé trop d'argent, vous avez fait des folies. David sourit sans rien répondre, car Madame Chardon avait mis le doigt dans le vif d'une plaie secrète qui faisait cruellement souffrir le pauvre amant. Ses prévisions avaient été si grandement dépassées par l'exécution qu'il lui était impossible de bâtir au-dessus de l'appentis. Sa belle-mère ne pouvait avoir de longtemps l'appartement qu'il voulait lui donner. Les esprits généreux éprouvent les plus vives douleurs de manquer à ces sortes de promesses, qui sont en quelque sorte les petites vanités de la tendresse. David cachait soigneusement sa gêne, afin de ménager le cœur de Lucien qui aurait pu se trouver accablé des sacrifices faits pour lui. Ève et ses amis ont bien travaillé de leur côté, disait madame Chardon. Le trousseau, le linge de ménage, tout est prêt. Ces demoiselles l'aiment tant qu'elles lui ont, sans qu'elle en sût rien, couvert les matelas en futaine blanche, bordée de liserés roses. C'est joli, ça donne envie de se marier. La mère et la fille avaient employé toutes leurs économies à fournir la maison de David, des choses auxquelles ne pensent jamais les jeunes gens. En sachant combien il déployait de luxe, car il était question d'un service de porcelaine demandé à Limoges, elles avaient tâché de mettre de l'harmonie entre les choses qu'elles apportaient et celles que s'achetait David. Cette petite lutte d'amour et de générosité devait amener les deux époux à se trouver gênés dès le commencement de leur mariage, au milieu de tous les symptômes d'une aisance bourgeoise qui pouvait passer pour du luxe dans une ville arriérée comme l'était alors Angoulême. Au moment où Lucien vit sa mère et David passant dans la chambre à coucher dont la tenture bleue et blanche, dont le joli mobilier lui était connu, il s'esquiva chez madame de Bargeton. Il trouva Naïs déjeunant avec son mari qui, mis en appétit par sa promenade matinale, mangeait sans aucun souci de ce qui s'était passé. Le vieux gentilhomme campagnard, monsieur de Nègrepelisse, cette imposante figure, reste de la vieille noblesse française, était auprès de sa fille. Quand Gentil eut annoncé monsieur de Rubempré, le vieillard à tête blanche lui jeta le regard inquisitif d'un père empressé de juger l'homme que sa fille a distingué. L'excessive beauté de Lucien le frappa si vivement qu'il ne put retenir un regard d'approbation. Mais il semblait voir dans la liaison de sa fille une amourette plutôt qu'une passion, un caprice plutôt qu'une passion durable. Le déjeuner finissait, Louise put se lever, laisser son père et monsieur de Bargeton en faisant signe à Lucien de la suivre. « Mon ami, dit-elle d'un son de voix triste et joyeux en même temps, « je vais à Paris, et mon père emmène Bargeton à l'Escarbas, où il restera pendant mon absence. Madame d'Espard, une demoiselle de Blamont-Chauvry, à qui nous sommes alliés par les d'Espard, les aînés de la famille des Nègrepelisse, est en ce moment très influente par elle-même et par ses parents. Si elle daigne nous reconnaître, je veux la cultiver beaucoup. » Elle peut nous obtenir, par son crédit, une place pour Bargeton. Mes sollicitations pourront le faire désirer par la cour pour député de la Charente, ce qui aidera sa nomination ici. La députation pourra plus tard favoriser mes démarches à Paris. C'est toi, mon enfant chéri, qui m'as inspiré ce changement d'existence. Le duel de ce matin me force à fermer ma maison pour quelque temps, car il y aura des gens qui prendront parti pour les Chandour, contre nous. Dans la situation où nous sommes, et dans une petite ville, une absence est toujours nécessaire pour laisser aux haines le temps de s'assoupir. Mais où je réussirai et ne reverrai plus Angoulême, où je ne réussirai pas et veux attendre à Paris le moment où je pourrai passer tous les étés à l'Escarbas et les hivers à Paris. C'est la seule vie d'une femme comme il faut. J'ai trop tardé à la prendre. La journée suffira pour tous nos préparatifs. Je partirai demain, dans la nuit, et vous m'accompagnerez, n'est-ce pas? Vous irez en avant, entre Mansle et Ruffec. Je vous prendrai dans ma voiture, et nous serons bientôt à Paris. Là, chère, est la vie de gens supérieurs. On ne se trouve à l'aise qu'avec ses pairs. Partout ailleurs, on souffre. D'ailleurs, Paris, capitale du monde intellectuel, est le théâtre de vos succès. Franchissez promptement l'espace qui vous en sépare. Ne laissez pas vos idées se rancir en province. Communiquez promptement avec les grands hommes qui représenteront le XIXe siècle. Rapprochez-vous de la cour et du pouvoir. Ni les distinctions ni les dignités ne viennent trouver le talent qui s'étiole dans une petite ville. Nommez-moi d'ailleurs les belles œuvres exécutées en province. Voyez au contraire le sublime et pauvre Jean-Jacques, invinciblement attiré par ce soleil moral qui crée les gloires en échauffant les esprits par le frottement des rivalités. Ne devez-vous pas vous hâter de prendre votre place dans la pléiade qui se produit à chaque époque? vous ne sauriez croire combien il est utile à un jeune talent d'être mis en lumière par la haute société. Je vous ferai recevoir chez Madame d'Espard. Personne n'a facilement l'entrée de son salon où vous trouverez tous les grands personnages, les ministres, les ambassadeurs, les orateurs de la Chambre, les pairs les plus influents, des gens riches ou célèbres. Il faudrait être bien maladroit pour ne pas exciter leur intérêt, quand on est beau, jeune et plein de génie. Les grands talents n'ont pas de petitesse, ils vous prêteront leur appui. Quand on vous sera haut placé, vos œuvres acquerront une immense valeur. Pour les artistes, le grand problème à résoudre est de se mettre en vue. Il se rencontrera donc là, pour vous, 1000 occasions de fortune, des sinécures, une pension sur la cassette. Les Bourbons aiment tant à favoriser les lettres et les arts. Aussi, soyez à la fois poète religieux et poète royaliste. Non seulement ce sera bien, mais vous ferez fortune. Est-ce l'opposition, est-ce le libéralisme qui donne les places, les récompenses et qui fait la fortune des écrivains? Ainsi prenez la bonne route et venez là où vont tous les hommes de génie. Vous avez mon secret, gardez le plus profond silence et disposez-vous à me suivre. Ne le voulez-vous pas ? Ajouta-t-elle étonnée de la silencieuse attitude de son amant. Lucien, hébété par le rapide coup d'œil qu'il jeta sur Paris en entendant ces séduisantes paroles, crut n'avoir jusqu'alors joui que de la moitié de son cerveau. Il lui sembla que l'autre moitié se découvrait, tant ses idées s'agrandirent. Il se vit, dans Angoulême, comme une grenouille sous sa pierre au fond d'un marécage. Paris et ses splendeurs, Paris qui se produit dans toutes les imaginations de province comme un Eldorado, lui apparut avec sa robe d'or, la tête sainte de pierreries royales, les bras ouverts aux talents. Les gens illustres allaient lui donner l'accolade fraternelle. Là, tout souriait au génie. Là, ni gentillâtre jaloux qui lançasse des mots piquants pour humilier l'écrivain, ni sotte indifférence pour la poésie. De là jaillissaient les œuvres des poètes. Là, elles étaient payées et mises en lumière. Après avoir lu les premières pages de l'Archer de Charles IX, les libraires ouvriraient leurs caisses et lui diraient « Combien voulez-vous ? » Il comprenait d'ailleurs qu'après un voyage où il serait marié par les circonstances, Madame de Bargeton serait à lui tout entière, qu'ils vivraient ensemble. À ces mots, « Ne le voulez-vous pas ?» il répondit par une larme, saisit Louise par la taille, la serra sur son cœur et lui marbra le cou par de violents baisers. Puis il s'arrêta tout à coup comme frappé par un souvenir et s'écria « Mon Dieu, ma sœur se marie après-demain !» Ce cri fut le dernier soupir de l'enfant noble et pur. Les liens si puissants qui attachent les jeunes cœurs à leur famille, à leur premier ami, à tous les sentiments primitifs, allaient recevoir un terrible coup de hache. « Eh bien !» s'écria l'altière Nègrepelisse, « qu'a de commun le mariage de votre sœur et la marche de notre amour. Tenez-vous tant à être le coryphée de cette noce de bourgeois et d'ouvriers que vous ne puissiez m'en sacrifier les nobles joies ?»« Le beau sacrifice, » dit-elle avec mépris. « J'ai envoyé ce matin mon mari se battre à cause de vous. Allez, monsieur, quittez-moi, je me suis trompée. » Elle tomba pâmée sur son canapé. Lucien l'y suivit en demandant pardon, en maudissant sa famille, David et sa sœur. « Je croyais tant en vous, » dit-elle. Monsieur de Cantecroix avait une mère qui l'idolâtrait, mais pour obtenir une lettre où je lui disais « Je suis contente », il est mort au milieu du feu. Et vous, quand il s'agit de voyager avec moi, vous ne savez point renoncer à un repas de noces. » Lucien voulut se tuer, et son désespoir fut si vrai, si profond, que Louise pardonna, mais en faisant sentir à Lucien qu'il aurait à racheter cette faute. « Allez donc, » dit-elle enfin, « soyez discret, et trouvez-vous demain soir à minuit, à une centaine de pas après Mansle. » Lucien sentit la terre petite sous ses pieds. Il revint chez David, suivi de ses espérances comme Oreste l'était par ses furies, car il entrevoyait 1000 difficultés qui se comprenaient toutes dans ce mot terrible. « Et de l'argent ?» La perspicacité de David l'épouvantait si fort qu'il s'enferma dans son joli cabinet pour se remettre de l'étourdissement que lui causait sa nouvelle position. Il fallait donc quitter cet appartement si chèrement établi, rendre inutile tant de sacrifices. Lucien pensa que sa mère pourrait loger là. David économiserait ainsi la coûteuse bâtisse qu'il avait projeté de faire au fond de la cour. Ce départ devait arranger sa famille. Il trouva mille raisons péremptoires à sa fuite, car il n'y a rien de jésuite comme un désir. Aussitôt, il courut à L'Houmeau chez sa sœur pour lui apprendre sa nouvelle destinée et se concerter avec elle. En arrivant devant la boutique de Postel, il pensa que, s'il n'y avait pas d'autre moyen, il emprunterait au successeur de son père la somme nécessaire à son séjour durant un an. « Si je vis avec Louise, un écu par jour sera pour moi comme une fortune. Et cela ne fait que 1 000 francs pour un an, se dit-il. Or, dans 6 mois, je serai riche. » Ève et sa mère entendirent, sous la promesse d'un profond secret, les confidences de Lucien. Toutes deux pleurèrent en écoutant l'ambitieux, et quand il voulut savoir la cause de ce chagrin, elles lui apprirent que tout ce qu'elle possédait avait été absorbé par le linge de table et de maison, par le trousseau d'Ève, par une multitude d'acquisitions auxquelles n'avait pas pensé David, et qu'elles étaient heureuses d'avoir faites, car l'imprimeur reconnaissait à Ève une dot de 10 000 francs. Lucien leur fit alors part de son idée d'emprunt, et Madame Chardon se chargea d'aller demander à Monsieur Postel 1 000 francs pour un an. « Mais, Lucien, dit Ève avec un serrement de cœur, tu n'assisteras donc pas à mon mariage ? Oh, reviens, j'attendrai quelques jours, elle te laissera bien revenir ici dans une quinzaine, une fois que tu l'auras accompagnée. Elle nous accordera bien 8 jours à nous qui t'avons élevé pour elle. » Notre union tournera mal si tu n'y es pas. Mais auras-tu assez de 1 000 francs ? Dit-elle en s'interrompant tout à coup. Quoique ton habit taille divinement, tu n'en as qu'un. Tu n'as que 2 chemises fines, et les 6 autres sont en grosse toile. Tu n'as que 3 cravates de batiste, les 3 autres sont en jaconas commun. Et puis tes mouchoirs ne sont pas beaux. Trouveras-tu dans Paris une sœur pour te blanchir ton linge dans la journée où tu en auras besoin ? Il t'en faut bien davantage. Tu n'as qu'un pantalon de Nankin fait cette année, ceux de l'année dernière te sont justes. Il faudra donc te faire habiller à Paris, les prix de Paris ne sont pas ceux d'Angoulême. Tu n'as que 2 gilets blancs de mes tables, j'ai déjà raccommodé les autres. Tiens, je te conseille d'emporter 2 000 francs. En ce moment, David, qui entrait, parut avoir entendu ces 2 derniers mots, car il examina le frère et la sœur en gardant le silence. « Ne me cachez rien, » dit-il. « Eh bien, » s'écria Ève, « il part avec elle. »« Postel, » dit Madame Chardon en entrant sans voir David, « consent à prêter les 1 000 francs, mais pour 6 mois seulement, et il veut une lettre de change de toi, acceptée par ton beau-frère, car il dit que tu n'offres aucune garantie. » La mère se retourna, vit son gendre, et ces 4 personnes gardèrent un profond silence. La famille Chardon sentait combien elle avait abusé de David. Tous étaient honteux. Une larme roula dans les yeux de l'imprimeur. « Tu ne seras donc pas à mon mariage, » dit-il. « Tu ne resteras donc pas avec nous. Et moi qui ai dissipé tout ce que j'avais, ah, Lucien, moi qui apportais à Ève ces pauvres petits bijoux de mariée, « je ne savais pas, » dit-il en essuyant ses yeux et tirant des écrins de sa poche, « avoir à regretter de les avoir achetés. » Il posa plusieurs boîtes couvertes en maroquin sur la table, devant sa belle-mère. « Pourquoi pensez-vous tant à moi ? » dit Ève avec un sourire d'ange qui corrigeait sa parole. « Chère maman, » dit l'imprimeur, « allez dire à Monsieur Postel que je consens à donner ma signature, car je vois sur ta figure, Lucien, que tu es bien décidé à partir. » Lucien inclina mollement et tristement la tête en ajoutant un moment après, « Ne me jugez pas mal, mes anges aimés. » Il prit Ève et David, les embrassa, les rapprocha de lui, les serra en disant, « Attendez les résultats, et vous saurez combien je vous aime. » David, À quoi servirait notre hauteur de pensée si elle ne nous permettait pas de faire abstraction des petites cérémonies dans lesquelles les lois entortillent les sentiments? Malgré la distance, mon âme ne sera-t-elle pas ici? La pensée ne nous réunira-t-elle pas? N'ai-je pas une destinée à accomplir? Les libraires viendront-ils chercher ici mon archer de Charles IX et les marguerites? Un peu plus tôt, un peu plus tard, ne faut-il pas toujours faire ce que je fais aujourd'hui? Puis-je jamais rencontrer des circonstances plus favorables? N'est-ce pas toute ma fortune que d'entrer pour mon début à Paris, dans le salon de la marquise d'Espard?
Il a raison, dit Ève. Vous-même ne me disiez-vous pas qu'il devait aller promptement à Paris?
David prit Ève par la main, l'emmena dans cet étroit cabinet où elle dormait depuis 7 années, et lui dit à l'oreille « Il a besoin de 2 000 francs, disais-tu, mon amour. Postel n'en prête que 1 000. » Ève regarda son prétendu par un regard affreux qui disait toutes ses souffrances. « Écoute, mon Ève adorée, nous allons mal commencer la vie. Oui, mes dépenses ont absorbé tout ce que je possédais. Il ne me reste que 2 000 francs, et la moitié est indispensable pour faire aller l'imprimerie. Donner 1 000 francs à ton frère, c'est donner notre pain, compromettre notre tranquillité. Si j'étais seul, je sais ce que je ferais. Mais nous sommes deux. Décide. » Ève, éperdue, se jeta dans les bras de son amant, le baisa tendrement et lui dit à l'oreille, tout en pleurs, « Fais comme si tu étais seul. Je travaillerai pour regagner cette somme. » Malgré le plus ardent baiser que deux fiancés aient jamais échangé, David laissa Ève abattue et revint trouver Lucien. « Ne te chagrine pas, lui dit-il, tu auras tes 2 000 francs. »« Allez voir Postel, dit madame Chardon, car vous devez signer tous deux le papier. » Quand les deux amis remontèrent, ils surprirent Ève et sa mère à genoux qui priaient Dieu. Si elle savait combien d'espérances le retour devait réaliser, elle sentait en ce moment tout ce qu'elle perdait dans cet adieu, car elle trouvait le bonheur à venir payé trop cher par une absence qui allait briser leur vie et les jeter dans 1 000 craintes sur les destinées de Lucien. « Si jamais tu oubliais cette scène, dit David à l'oreille de Lucien, tu serais le dernier des hommes. » L'imprimeur jugea sans doute ces graves paroles nécessaires. L'influence de madame de Bargeton ne l'épouvantait pas moins que la funeste mobilité de caractère qui pouvait tout aussi bien jeter Lucien dans une mauvaise comme dans une bonne voie. Ève eut bientôt fait le paquet de Lucien. Ce Fernand Cortès littéraire emportait peu de choses. Il garda sur lui sa meilleure redingote, son meilleur gilet et l'une de ses 2 chemises fines. Tout son linge, son fameux habit, ses effets et ses manuscrits formèrent un si mince paquet que, pour le cacher au regard de madame de Bargeton, David proposa de l'envoyer par la diligence à son correspondant, un marchand de papier auquel il écrirait de le tenir à la disposition de Lucien. Malgré les précautions prises par madame de Bargeton pour cacher son départ, Monsieur du Châtelet l'apprit et voulut savoir si elle ferait le voyage seule ou accompagnée de Lucien. Il envoya son valet de chambre à Ruffec avec la mission d'examiner toutes les voitures qui relaieraient à la poste. « Si elle enlève son poète, pensa-t-il, elle est à moi. » Lucien partit le lendemain au petit jour, accompagné de David qui s'était procuré un cabriolet et un cheval en annonçant qu'il allait traiter d'affaires avec son père, petit mensonge qui dans les circonstances actuelles était probable. Les deux amis se rendirent à Marsac, où ils passèrent une partie de la journée chez le vieil ours. Puis le soir, ils allèrent au-delà de Mansle attendre madame de Bargeton qui arriva vers le matin. En voyant la vieille calèche sexagénaire qu'il avait tant de fois regardée sous la remise, Lucien éprouva l'une des plus vives émotions de sa vie. Il se jeta dans les bras de David qui lui dit « Dieu veuille que ce soit pour ton bien ». L'imprimeur remonta dans son méchant cabriolet et disparut le cœur serré. Il avait d'horribles pressentiments sur les destinées de Lucien à Paris. Fin de la première partie, les deux poètes. Fin de la 12e section. Treizième section de Scène de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris. Ni Lucien, ni Madame de Bargeton, ni Gentil, ni Albertine, la femme de chambre, ne parlèrent jamais des événements de ce voyage. Mais il est à croire que la présence continuelle des gens le rendit fort maussade pour un amoureux qui s'attendait à tous les plaisirs d'un enlèvement. Lucien, qui allait en poste pour la première fois de sa vie, fut très ébahi de voir semer sur la route d'Angoulême à Paris presque toute la somme qu'il destinait à sa vie d'une année. Comme les hommes qui unissent les grâces de l'enfance à la force du talent, il eut le tort d'exprimer ses naïfs étonnements à l'aspect des choses nouvelles pour lui. Un homme doit bien étudier une femme avant de lui laisser voir ses émotions et ses pensées comme elles se produisent. Une maîtresse, aussi tendre que grande, sourit aux enfantillages et les comprend. Mais pour peu qu'elle ait de la vanité, elle ne pardonne pas à son amant de s'être montré enfant, vain ou petit. Beaucoup de femmes portent une si grande exagération dans leur culte qu'elles veulent toujours trouver un dieu dans leur idole. Tandis que celle qui aime un homme pour lui-même avant de l'aimer pour elle, adore ses petitesses autant que ses grandeurs. Lucien n'avait pas encore deviné que chez Madame de Bargeton, l'amour était greffé sur l'orgueil. Il eut le tort de ne pas s'expliquer certains sourires qui échappèrent à Louise durant ce voyage, quand, au lieu de les contenir, il se laissait aller à ces gentillesses de jeune rat sorti de son trou. Les voyageurs débarquèrent à l'hôtel du Gaillard Bois, rue de l'Échelle, avant le jour. Les deux amants étaient si fatigués l'un et l'autre qu'avant tout, Louise voulut se coucher et se coucha, non sans avoir ordonné à Lucien de demander une chambre au-dessus de l'appartement qu'elle prit. Lucien dormit jusqu'à 4 heures du soir. Madame de Bargeton le fit éveiller pour dîner. Il s'habilla précipitamment en apprenant l'heure et trouva Louise dans une de ces ignobles chambres qui sont la honte de Paris, où malgré tant de prétentions à l'élégance, il n'existe pas encore un seul hôtel où tout voyageur riche puisse retrouver son chez-soi. Quoiqu'il eût sur les yeux ces nuages que laisse un brusque réveil, Lucien ne reconnut pas sa Louise dans cette chambre froide, sans soleil, à rideaux passés, dont le carreau frotté semblait misérable, où le meuble était usé, de mauvais goût, vieux ou d'occasion. Il est en effet certaines personnes qui n'ont plus ni le même aspect ni la même valeur, une fois séparées des figures, des choses, des lieux qui leur servent de cadre. Les physionomies vivantes ont une sorte d'atmosphère qui leur est propre, comme le clair-obscur des tableaux flamands est nécessaire à la vie des figures qui y a placé le génie des peintres. Les gens de province sont presque tous ainsi. Puis, Madame de Bargeton parut plus digne, plus pensive qu'elle ne devait l'être en un moment où commençait un bonheur sans entrave. Lucien ne pouvait se plaindre. Gentil et Albertine les servaient. Le dîner n'avait plus ce caractère d'abondance et d'essentielle bonté qui distingue la vie en province. Les plats, coupés par la spéculation, sortaient d'un restaurant voisin. Ils étaient maigrement servis, ils sentaient la portion congrue. Paris n'est pas beau dans ces petites choses auxquelles sont condamnés les gens à fortune médiocre. Lucien attendit la fin du repas pour interroger Louise dont le changement lui semblait inexplicable. Il ne se trompait point. Un événement grave, car les réflexions sont les événements de la vie morale, était survenu pendant son sommeil. Sur les 2 heures après-midi, Sixte du Châtelet s'était présenté à l'hôtel, avait fait éveiller Albertine, avait manifesté le désir de parler à sa maîtresse, et il était revenu après avoir à peine laissé le temps à Madame de Bargeton de faire sa toilette. Anaïs, dont la curiosité fut excitée par cette singulière apparition de monsieur du Châtelet, elle qui se croyait si bien cachée, l'avait reçue vers 3 heures. « Je vous ai suivi en risquant d'avoir une réprimande à l'administration, dit-il en la saluant, car je prévoyais ce qui vous arrive. Mais dussé-je perdre ma place, au moins vous ne serez pas perdu, vous. »« Que voulez-vous dire ? » s'écria madame de Bargeton. « Je vois bien que vous aimez Lucien, » reprit-il d'un air tendrement résigné, « car il faut bien aimer un homme pour ne réfléchir à rien, pour oublier toutes les convenances, vous qui les connaissez si bien. Croyez-vous donc, chère Naïs adorée, que vous serez reçue chez madame d'Espard ou dans quelque salon de Paris que ce soit, du moment où l'on saura que vous vous êtes comme enfui d'Angoulême avec un jeune homme et surtout après le duel de monsieur de Bargeton et de monsieur de Chandour ? Le séjour de votre mari à l'Escarbas a l'air d'une séparation. En un cas semblable, les gens comme il faut commencent par se battre pour leurs femmes et les laissent libres après. Aimez monsieur de Rubempré, protégez-le, faites-en tout ce que vous voudrez, mais ne demeurez pas ensemble. Si quelqu'un ici savait que vous avez fait le voyage dans la même voiture, vous seriez mis à l'index par le monde que vous voulez voir. D'ailleurs, Naïs, ne faites pas encore de ces sacrifices à un jeune homme que vous n'avez encore comparé à personne, qui n'a été soumis à aucune épreuve et qui peut vous oublier ici pour une Parisienne en la croyant plus nécessaire que vous à ses ambitions. Je ne veux pas nuire à celui que vous aimez, mais vous me permettrez de faire passer vos intérêts avant les siens et de vous dire « étudiez-le. Connaissez bien toute l'importance de votre démarche. Si vous trouvez les portes fermées, si les femmes refusent de vous recevoir, au moins n'ayez aucun regret de tant de sacrifices, en songeant que celui auquel vous les faites en sera toujours digne et les comprendra. » Madame d'Espard est d'autant plus prude et sévère qu'elle-même est séparée de son mari, sans que le monde ait pu pénétrer la cause de leur désunion. Mais les Navarins, les Blamont-Chauvry, les Lenoncourt, tous ses parents l'ont entourée. Les femmes les plus collémentées vont chez elle et l'accueillent avec respect, en sorte que le marquis d'Espard a tort. Dès la première visite que vous lui ferez, vous reconnaîtrez la justesse de mes avis. Certes, je puis vous le prédire, moi qui connais Paris. En entrant chez la marquise, vous seriez au désespoir qu'elle sût que vous êtes à l'hôtel du Gaillard-Bois avec le fils d'un apothicaire, tout monsieur de Rubempré qu'il veut être. Vous aurez ici des rivales bien autrement astucieuses et rusées qu'Amélie. Elles ne manqueront pas de savoir qui vous êtes, où vous êtes, d'où vous venez et ce que vous faites. Vous avez compté sur l'incognito, je le vois, mais vous êtes de ces personnes pour lesquelles l'incognito n'existe point. Ne rencontrerez-vous pas Angoulême partout ? C'est les députés de la Charente qui viennent pour l'ouverture des chambres, c'est le général qui est à Paris en congé. Mais il suffira d'un seul habitant d'Angoulême qui vous aperçoive pour que votre vie soit arrêtée d'une étrange manière. Vous ne seriez plus que la maîtresse de Lucien. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis chez le receveur général, rue du Faubourg Saint-Honoré, à 2 pas de chez madame d'Espard. Je connais assez la maréchale de Carigliano, madame de Sérisy, et le président du conseil pour vous y présenter. Mais vous verrez tant de monde chez madame d'Espard que vous n'aurez pas besoin de moi. Loin d'avoir à désirer d'aller dans tel ou tel salon, vous serez désiré dans tous les salons. » Du Châtelet put parler sans que madame de Bargeton l'interrompît. Elle était saisie par la justesse de ses observations. La reine d'Angoulême avait en effet compté sur l'incognito. « Vous avez raison, cher ami, dit-elle, mais comment faire ? « Laissez-moi, répondit Châtelet, vous cherchez un appartement tout meublé, convenable. Vous mènerez ainsi une vie moins chère que la vie des hôtels, et vous serez chez vous. Et, si vous m'en croyez, vous y coucherez ce soir. « Mais comment avez-vous connu mon adresse ? Dit-elle. « Votre voiture était facile à reconnaître, et d'ailleurs, je vous suivais. À Sèvres, le postillon qui vous a mené a dit votre adresse au mien. Me permettrez-vous d'être votre maréchal des logis ? Je vous écrirai bientôt pour vous dire où je vous aurai casé. » « Eh bien, faites, dit-elle. » Ce mot ne semblait rien, et c'était tout. Le baron du Châtelet avait parlé la langue du monde à une femme du monde. Il s'était montré dans toute l'élégance d'une mise parisienne. Un joli cabriolet bien attelé l'avait amené. Par hasard, madame de Bargeton se mit à la croisée pour réfléchir à sa position et vit partir le vieux dandy. Quelques instants après, Lucien, brusquement éveillé, brusquement habillé, se produisit à ses regards dans son pantalon de nankin de l'an dernier, avec sa méchante petite redingote. Il était beau, mais ridiculement mis. Habillé l'Apollon du Belvédère ou l'Antinoüs en porteur d'eau, reconnaîtrez-vous alors la divine création du ciseau grec ou romain? Les yeux comparent avant que le cœur n'ait rectifié ce rapide jugement machinal. Le contraste entre Lucien et Châtelet fut trop brusque pour ne pas frapper les yeux de Louise. Lorsque vers 6 heures le dîner fut terminé, madame de Bargeton fit signe à Lucien de venir près d'elle sur un méchant canapé de calicot rouge à fleurs jaunes où elle s'était assise. « Mon Lucien, dit-elle, n'es-tu pas d'avis que si nous avons fait une folie qui nous tue également, il y a de la raison à la réparer ? Nous ne devons, cher enfant, ni demeurer ensemble à Paris, ni laisser soupçonner que nous y soyons venus de compagnie. Ton avenir dépend beaucoup de ma position, et je ne dois la gâter d'aucune manière. Ainsi, dès ce soir, je vais aller me loger à quelques pas d'ici. » Mais tu demeureras dans cet hôtel, et nous pourrons nous voir tous les jours sans que personne y trouve à redire. » Louise expliqua les lois du monde à Lucien, qui ouvrit de grands yeux. Sans savoir que les femmes qui reviennent sur leur folie reviennent sur leur amour, il comprit qu'il n'était plus le Lucien d'Angoulême. Louise ne lui parlait que d'elle, de ses intérêts, de sa réputation, du monde, et pour excuser son égoïsme, elle essayait de lui faire croire qu'il s'agissait de lui-même. Il n'avait aucun droit sur Louise, si promptement redevenue madame de Bargeton. Et, chose plus grave, il n'avait aucun pouvoir. Aussi ne put-il retenir de grosses larmes qui roulèrent dans ses yeux. « Si je suis votre gloire, vous êtes encore plus pour moi. Vous êtes ma seule espérance et tout mon avenir. » J'ai compris que si vous épousiez mes succès, vous deviez épouser mon infortune, et voilà que déjà nous nous séparons. « Vous jugez ma conduite, dit-elle, vous ne m'aimez pas. » Lucien la regarda avec une expression si douloureuse qu'elle ne put s'empêcher de lui dire « Cher petit, je resterai si tu veux, nous nous perdrons et resterons sans appui. Mais quand nous serons également misérables et tous deux repoussés, quand l'insuccès, car il faut tout prévoir, nous aura rejetés à l'Escarbas, souviens-toi, mon amour, que j'aurais prévu cette fin, et que je t'aurais proposé d'abord de parvenir selon les lois du monde, en leur obéissant. Louise, répondit-il en l'embrassant, je suis effrayé de te voir si sage. Songe que je suis un enfant, que je me suis abandonné tout entier à ta chère volonté. Moi, je voulais triompher des hommes et des choses, de vive force. Mais si je puis arriver plus promptement par ton aide que seul, je serai bien heureux de te devoir toutes mes fortunes. Pardonne, j'ai trop mis en toi pour ne pas tout craindre. Pour moi, une séparation est l'avant-coureur de l'abandon, et l'abandon, c'est la mort. Mais, cher enfant, le monde te demande peu de choses. Répondit-elle. Il s'agit seulement de coucher ici, et tu demeureras tout le jour chez moi sans qu'on y trouve à redire. Quelques caresses achevèrent de calmer Lucien. Une heure après, Gentil apporta un mot par lequel Châtelet apprenait à madame de Bargeton qu'il lui avait trouvé un appartement rue Neuve du Luxembourg. Elle se fit expliquer la situation de cette rue qui n'était pas très éloignée de la rue de l'Échelle, et dit à Lucien. Nous sommes voisins. 2 heures après, Louise monta dans une voiture que lui envoyait du Châtelet pour se rendre chez elle. L'appartement, un de ceux où les tapissiers mettent des meubles et qu'ils louent à de riches députés ou à de grands personnages venus pour peu de temps à Paris, était somptueux, mais incommode.
Lucien retourna sur les 11 heures à son petit hôtel du Gaillard Bois, n'ayant encore vu de Paris que la partie de la rue Saint-Honoré qui se trouve entre la rue Neuve du Luxembourg et la rue de l'Échelle. Il se coucha dans sa misérable petite chambre qu'il ne put s'empêcher de comparer au magnifique appartement de Louise. Au moment où il sortit de chez madame de Bargeton, le baron Châtelet y arriva, revenant de chez le ministre des Affaires étrangères, dans la splendeur d'une mise de bal. Il venait rendre compte de toutes les conventions qu'il avait faites pour madame de Bargeton. Louise était inquiète. Ce luxe l'épouvantait. Les mœurs de la province avaient fini par réagir sur elle. Elle était devenue méticuleuse dans ses comptes. Elle avait tant d'ordre qu'à Paris, elle allait passer pour avare. Elle avait emporté près de 20 000 francs en un bon du receveur général, en destinant cette somme à couvrir l'excédent de ses dépenses pendant 4 années. Elle craignait déjà de ne pas avoir assez et de faire des dettes. Châtelet lui apprit que son appartement ne lui coûtait que 600 francs par mois. « Une misère, » dit-il en voyant le haut-le-corps que fit Naïs. « Vous avez à vos ordres une voiture pour 500 francs par mois, ce qui fait en tout 50 louis. Vous n'aurez plus qu'à penser à votre toilette. Une femme qui voit le grand monde ne saurait s'arranger autrement. Si vous voulez faire de monsieur de Bargeton un receveur général ou lui obtenir une place dans la maison du roi, vous ne devez pas avoir un air misérable. Ici l'on ne donne qu'aux riches. » « Il est fort heureux, dit-il, que vous ayez Gentil pour vous accompagner, et Albertine pour vous habiller, car les domestiques sont une ruine à Paris. Vous mangerez rarement chez vous, lancé comme vous allez l'être. » Madame de Bargeton et le baron causèrent de Paris. Du Châtelet raconta les nouvelles du jour, les 1000 riens qu'on doit savoir sous peine de ne pas être de Paris. Il donna bientôt à Naïs des conseils sur les magasins où elle devait se fournir. Il lui indiqua Herbeau pour les toques, Juliette pour les chapeaux et les bonnets. Il lui donna l'adresse de la couturière qui pouvait remplacer Victorine. Enfin, il lui fit sentir la nécessité de se désangoulémer. Puis il partit sur le dernier trait d'esprit qu'il eut le bonheur de trouver. « Demain, dit-il négligemment, j'aurai sans doute une loge à quelque spectacle. Je viendrai vous prendre, vous et monsieur de Rubempré, car vous me permettez de vous faire à vous deux les honneurs de Paris. » Il a dans le caractère plus de générosité que je ne le pensais, se dit madame de Bargeton en lui voyant inviter Lucien. Au mois de juin, les ministres ne savent que faire de leur loge au théâtre. Les députés ministériels et leurs commettants font leur vendange ou veillent à leur moisson. Leurs connaissances les plus exigeantes sont à la campagne ou en voyage. Aussi, vers cette époque, les plus belles loges des théâtres de Paris reçoivent-elles des hôtes hétéroclites que les habitués ne revoient plus et qui donnent au public l'air d'une tapisserie usée. Du Châtelet avait déjà pensé que, grâce à cette circonstance, il pourrait, sans dépenser beaucoup d'argent, procurer à Naïs les amusements qui affriandent le plus les provinciaux. Le lendemain, pour la première fois qu'il venait, Lucien ne trouva pas Louise. Madame de Bargeton était sortie pour quelques emplettes indispensables. Elle était allée tenir conseil avec les graves et illustres autorités en matière de toilettes féminines que Châtelet lui avait citées, car elle avait écrit son arrivée à la marquise d'Espard. Quoique madame de Bargeton eût en elle-même cette confiance que donne une longue domination, elle avait singulièrement peur de paraître provinciale. Elle avait assez de tact pour savoir combien les relations entre femmes dépendent des premières impressions, et quoiqu'elle se sût de force à se mettre promptement au niveau des femmes supérieures comme madame d'Espard, elle sentait avoir besoin de bienveillance à son début, et voulait surtout ne manquer d'aucun élément de succès. Aussi sut-elle à Châtelet un gré infini de lui avoir indiqué les moyens de se mettre à l'unisson du beau monde parisien. Par un singulier hasard, la marquise se trouvait dans une situation à être enchantée de rendre service à une personne de la famille de son mari. Sans cause apparente, le marquis d'Espard s'était retiré du monde. Il ne s'occupait ni de ses affaires, ni des affaires politiques, ni de sa famille, ni de sa femme. Devenue ainsi maîtresse d'elle-même, la marquise sentait le besoin d'être approuvée par le monde. Elle était donc heureuse de remplacer le marquis en cette circonstance, en se faisant la protectrice de sa famille. Elle allait mettre de l'ostentation à son patronage afin de rendre les torts de son mari plus évidents. Dans la journée même, elle écrivit à madame de Bargeton, née Nègrepelisse, un de ces charmants billets où la forme est si jolie qu'il faut bien du temps avant d'y reconnaître le manque de fond. Elle était heureuse d'une circonstance qui rapprochait de la famille une personne de qui elle avait entendu parler et qu'elle souhaitait connaître, car les amitiés de Paris n'étaient pas si solides qu'elle ne désirât avoir quelqu'un de plus à aimer sur la terre. Et si cela ne devait pas avoir lieu, ce ne serait qu'une illusion à ensevelir avec les autres. Elle se mettait tout entière à la disposition de sa cousine, qu'elle serait allée voir sans une indisposition qui la retenait chez elle, mais elle se regardait déjà comme son obligée de ce qu'elle eût songé à elle. Pendant sa première promenade vagabonde à travers les boulevards et la rue de la Paix, Lucien, comme tous les nouveaux venus, s'occupait beaucoup plus des choses que des personnes. À Paris, les masses s'emparent tout d'abord de l'attention. Le luxe des boutiques, la hauteur des maisons, l'affluence des voitures, les constantes oppositions que présentent un extrême luxe et une extrême misère saisissent avant tout. Surpris de cette foule à laquelle il était étranger, cet homme d'imagination éprouva comme une immense diminution de lui-même. Les personnes qui jouissent en province d'une considération quelconque et qui y rencontrent à chaque pas une preuve de leur importance ne s'accoutument point à cette perte totale et subite de leur valeur. Être quelque chose dans son pays et n'être rien à Paris sont deux états qui veulent des transitions. Et ceux qui passent trop brusquement de l'un à l'autre tombent dans une espèce d'anéantissement. Pour un jeune poète qui trouvait un écho à tous ses sentiments, un confident pour toutes ses idées, une âme pour partager ses moindres sensations, Paris allait être un affreux désert. Lucien n'était pas allé chercher son bel habit bleu, en sorte qu'il fut gêné par la mesquinerie, pour ne pas dire le délabrement de son costume, en se rendant chez madame de Bargeton à l'heure où elle devait être rentrée. Il y trouva le baron du Châtelet, qui les emmena tous deux dîner au rocher de Cancale. Lucien, étourdi de la rapidité, du tournoiement parisien, ne pouvait rien dire à Louise. Ils étaient tous les trois dans la voiture. Mais il lui pressa la main. Elle répondit amicalement à toutes les pensées qu'il exprimait ainsi. Après le dîner, Châtelet conduisit ses deux convives au vaudeville. Lucien éprouvait un secret mécontentement à l'aspect de du Châtelet. Il maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. Le directeur des contributions mit le sujet de son voyage sur le compte de son ambition. Il espérait être nommé secrétaire général d'une administration et entrer au Conseil d'État comme maître des requêtes. Il venait demander raison des promesses qui lui avaient été faites, car un homme comme lui ne pouvait pas rester directeur des contributions. Il aimait mieux ne rien être, devenir député, rentrer dans la diplomatie. Il se grandissait. Lucien reconnaissait vaguement dans ce vieux beau la supériorité de l'homme du monde au fait de la vie parisienne. Il était surtout honteux de lui devoir ses jouissances. Là où le poète était inquiet et gêné, l'ancien secrétaire des commandements se trouvait comme un poisson dans l'eau. Du Châtelet souriait aux hésitations, aux étonnements, aux questions, aux petites fautes que le manque d'usage arrachait à son rival, comme les vieux loups de mer se moquent des novices qui n'ont pas le pied marin. Le plaisir qu'éprouvait Lucien en voyant pour la première fois le spectacle à Paris compensa le déplaisir que lui causaient ses confusions. Cette soirée fut remarquable par la répudiation secrète d'une grande quantité de ses idées sur la vie de province. Le cercle s'élargissait, la société prenait d'autres proportions. Le voisinage de plusieurs jolies parisiennes, si élégamment, si fraîchement mises, lui fit remarquer la vieillerie de la toilette de madame de Bargeton, quoiqu'elle fût passablement ambitieuse. Ni les étoffes, ni les façons, ni les couleurs n'étaient de mode.
La coiffure qui le séduisait tant à Angoulême lui parut d'un goût affreux, comparé aux délicates inventions par lesquelles se recommandait chaque femme. « Va-t-elle rester comme ça ?» se dit-il, sans savoir que la journée avait été employée à préparer une transformation. En province, il n'y a ni choix, ni comparaison à faire. L'habitude de voir les physionomies leur donne une beauté conventionnelle. Transportée à Paris, une femme qui passe pour jolie en province n'obtient pas la moindre attention, car elle n'est belle que par l'application du proverbe « Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois ». Les yeux de Lucien faisaient la comparaison que Madame de Bargeton avait faite la veille entre lui et Châtelet. De son côté, Madame de Bargeton se permettait d'étranges réflexions sur son amant. Malgré son étrange beauté, le pauvre poète n'avait point de tournure. Sa redingote, dont les manches étaient trop courtes, ses méchants gants de province, son gilet étriqué, le rendaient prodigieusement ridicule auprès des jeunes gens du balcon. Madame de Bargeton lui trouvait un air piteux. Châtelet, occupé d'elle sans prétention, veillant sur elle avec un soin qui trahissait une passion profonde, Châtelet, élégant et à son aise comme un acteur qui retrouve les planches de son théâtre, regagnait en 2 jours tout le terrain qu'il avait perdu en 6 mois. Quoique le vulgaire n'admette pas que les sentiments changent brusquement, il est certain que 2 amants se séparent souvent plus vite qu'ils ne se sont liés. Il se préparait chez Madame de Bargeton et chez Lucien un désenchantement sur eux-mêmes dont la cause était Paris. La vie s'y agrandissait aux yeux du poète, comme la société prenait une face nouvelle aux yeux de Louise. À l'un et à l'autre, il ne fallait plus qu'un accident pour trancher les liens qui les unissaient. Ce coup de hache, terrible pour Lucien, ne se fit pas longtemps attendre. Madame de Bargeton mit le poète à son hôtel et retourna chez elle, accompagnée de Duchâtelet, ce qui déplut horriblement au pauvre amoureux. « Que vont-ils dire de moi ?» pensait-il en montant dans sa triste chambre. « Ce pauvre garçon est singulièrement ennuyeux, » dit Duchâtelet en souriant quand la portière fut refermée. Il en est ainsi de tous ceux qui ont un monde de pensées dans le cœur et dans le cerveau. Les hommes qui ont tant de choses à exprimer en de belles œuvres longtemps révélées professent un certain mépris pour la conversation, commerce où l'esprit s'amoindrit en se monnayant. « dit la fière Nègrepelisse qui eut encore le courage de défendre Lucien, moins pour Lucien que pour elle-même. « Je vous accorde volontiers ceci, reprit le baron, mais nous vivons avec les personnes et non avec les livres. Tenez, chère Naïs, je le vois, il n'y a encore rien entre vous et lui, j'en suis ravi. Si vous vous décidez à mettre dans votre vie un intérêt qui vous a manqué jusqu'à présent, je vous en supplie. Que ce ne soit pas pour ce prétendu homme de génie. Si vous vous trompiez, si dans quelques jours, en le comparant aux véritables talents, aux hommes sérieusement remarquables que vous allez voir, vous reconnaissiez, chère belle sirène, avoir pris sur votre dos éblouissant et conduit au port, au lieu d'un homme armé de la lyre, un petit singe, sans manière, sans portée, sot et avantageux, qui peut avoir de l'esprit à l'houmeau, mais qui devient à Paris un garçon extrêmement ordinaire. Après tout, il se publie ici par semaine des volumes de vers dont le moindre vaut encore mieux que toute la poésie de Monsieur Chardon. De grâce, attendez et comparez. Demain, vendredi, il y a opéra, dit-il en voyant la voiture entrant dans la rue Neuve du Luxembourg. Madame d'Espard dispose de la loge des premiers gentilshommes de la chambre et vous y mènera sans doute. Pour vous voir dans votre gloire, j'irai dans la loge de Madame de Sérisy. On donne les Danaïdes. Adieu, dit-elle. Fin de la 13e section.
Save big this holiday season. All in the Kroger app. Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app
to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.